Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Maître Cathy Richard, vous étiez dans ce dossier avocate de la partie civile, vous avez défendu les intérêts du petit Lorenzo, le petit bébé, les intérêts de son père, Alan, et du père d'Alan. Est-ce que ce verdict de 20 ans pour assassinat, il a encouru perpétuité, traduit en quelque sorte la prise en compte par le jury du malheur qu'Alain Barruet a vécu lui aussi?
Du point de vue de mon client, on est au-delà de ça. En réalité, il faut savoir que Alan est un garçon qui a choisi de pardonner et de regarder devant pour son fils. Il a choisi la paix plutôt que la guerre. Il a choisi de ne pas être gagné, rongé, lui, par cette colère qui avait détruit, finalement, les Berruet et détruit Maeva. En réalité, Alan, il a choisi l'antithèse Berruet. On lui a tué sa femme, on a tué la maman de son petit garçon, et lui, il a choisi justement de ne pas haïr. Contrairement aux Berruet qui avaient choisi, eux, de haïr pour une histoire d'ado.
Donc les 20 ans lui vont.
En réalité, vous savez, on ne demande pas aux parties civiles si ça leur va ou pas.
Oui, mais vous savez, la prison, vous avez cette conversation, Cathy Richard, avec eux avant.
J'ai toujours une conversation avec les clients pour leur dire que la peine n'efface pas la peine, en ce sens que la sanction n'efface pas la souffrance. Et que c'est pas de ça qu'il faut attendre d'aller mieux. C'est pas d'attendre d'un verdict qui n'est pas en relation avec leur souffrance, mais qui est en relation avec la commission des faits, la personnalité de l'auteur, les circonstances des faits, mais pas avec leur souffrance. Et donc c'est un travail que je fais systématiquement avec les parties civiles avant l'audience, et qui a été d'autant plus facile à faire avec Alan qu'il n'était pas dans cet état d'esprit.
Néanmoins, est-ce qu'il y a une forme de circonstance atténuante dans ces 20 ans, alors qu'il encourait perpète? À votre avis,
je pense que c'est incontestablement un couple qui s'est, dans leur souffrance, monté la tête et ont choisi d'avoir des boucs émissaires. Et leur bouc émissaire, c'était Alan et Maeva. Quand Alan et Maeva sont violemment pris à partie, ils vont déposer plainte. Et alors, c'est extraordinaire cette plainte, parce que ça nous permet de lire dans la procédure, d'entendre la voix de Maeva, en fait, d'entendre la voix de la victime qui est morte dans notre procédure, et de l'entendre parler avant de celui qui va la tuer. Et Maeva raconte toute l'histoire, justement. Elle explique la genèse de cette histoire. Elle explique que c'est elle qui a demandé à Alan d'aller montrer les textos de Rodolphe à Christelle. Elle dit, moi j'en avais assez, j'étais entre les deux, je pouvais plus supporter ce harcèlement de la part de Rodolphe, et j'ai demandé à Alan d'aller les montrer à Christelle. Donc elle explique tout ça, elle. C'est sa voix, elle, qui explique ça. Mais surtout, ils expliquent tous les deux ce jour-là qu'ils sont terrorisés par les Berruet. Ce qui explique aussi que lorsque Alain Berruet nous dit qu'il venait juste discuter ce soir-là, il faut d'abord savoir premièrement que la voiture du couple et la voiture conduite par Alan n'étaient pas garées devant la maison, et ça, il était obligé de s'en rendre compte que la voiture d'Alan n'était pas là.
Et que donc Alan n'était pas là.
Que quand il va déposer ce sac à main qu'il a d'abord rapporté comme un trophée à sa femme, quand il va le déposer au moulin de Fourges, là où il pensait d'ailleurs que Alan travaillait ce soir-là, c'est pour accuser Alan. En fait, tout est une opération de vengeance. Tuer Maeva et faire accuser Alan. C'est terrible. Terrible.
Alors finalement, il est condamné, Alain Barruet, pour assassinat. Les jurés ont donc retenu la préméditation. Vous êtes d'accord avec ça? Il prend la batte de baseball pour tuer.
Oui. Il prend pas seulement la batte de baseball pour tuer. Il prend les gants MAPA en caoutchouc pour tuer. Il met ses bottes en caoutchouc pour tuer. Il rentre dans ce logement à pas feutré. Parce qu'en réalité, effectivement, la porte était ouverte, pas parce qu'elle lui avait ouverte, mais parce qu'on est dans un petit village et qu'elle savait que son chéri allait rentrer plus tard dans la soirée et qu'elle se méfiait pas, pour le coup. Et à pas feutré, il monte dans la chambre dans laquelle est Maeva et son bébé. Elle est faite à ce moment-là, mais elle est faite comme un rat au fond d'un trou, parce que c'est l'escalier, c'est un escalier de meunier, très très accentuée, voilà. Et quand il arrive en haut, elle n'a pas d'endroit où se réfugier. La seule chose que Maëva va faire, c'est protéger son fils au maximum de son corps. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des marques de la batte de baseball vont être dans son dos, parce qu'elle a tourné le dos, elle a essayé de protéger son petit garçon. Elle a d'ailleurs coincé ce petit garçon avec son corps, ce qui a empêché que ensuite Lorenzo tombe dans l'escalier, ce qu'il aurait pu faire en plus. Mais à ce moment-là, on a encore un Berouet qui vient de dire « Oui, en fait, j'ai pété les plombs parce qu'elle m'a provoqué. » Elle a dit « Rodolphe, il est bien là où il est. » C'est impossible. C'est impossible. En réalité, c'est impossible. Ils montent saisir en pleine nuit une jeune femme et son petit bébé dans leur maison sans s'annoncer. On imagine bien que si c'était annoncé, c'est elle qui serait descendue. Sans s'annoncer, avec une batte de baseball à la main, des gants en caoutchouc, et ils ne lui laissent pas le temps ni la possibilité de s'enfuir. Lui va dire, c'est parce qu'elle m'a fait péter les plombs. Mais bien sûr qu'elle l'aurait pas fait péter les plombs. Bien sûr qu'à ce moment-là, elle était terrorisée, Maëva.
Qui voulait tuer, d'ailleurs? Est-ce qu'il voulait tuer Maëva ou Alan?
Non, il voulait tuer Maëva. Il savait qu'Alan n'était pas là ce soir-là. La voiture n'était pas là. Il savait qu'Alan travaillait souvent tard et en plus on est le week-end. Il savait pertinemment qu'Alan n'était pas là ce soir-là. Il rentrait et il voulait tuer Maëva. Parce que c'est Maëva qui était l'ancienne amoureuse de Rodolphe. Parce que c'est Maëva dont Rodolphe était resté amoureux et à qui il continuait à envoyer des SMS. Parce que c'est Maëva qui avait dit à Alan d'en parler à Christelle. D'ailleurs, il n'a pas jamais pensé à tuer Christelle, parce que finalement c'est Christelle qui a mis Rodolphe dehors. Et puis son fils, tout le monde s'accorde à dire qu'il a bu une bouteille d'alcool fort d'un seul coup avant de prendre le volant et de partir comme une balle. Plusieurs sont témoins, disent qu'il roulait comme un fou quand il a eu une sortie de route. Non, ils sont pas dans cette idée-là. Ils sont dans leur idée que c'est de la faute de Maëva et Alan. Et Maëva doit mourir et Alan doit payer. Et toute l'idée, c'est de dire, je tue Maëva, je rapporte son sac à main comme un trophée à ma femme, et ensuite je vais mettre ce sac à main là où Alan aurait pu le jeter.
Ah, vous pensez qu'il choisit le restaurant pour incriminer Alan?
Il choisit l'Ept là où il coule au moulin, ou là où il y a Alan. Il aurait pu le mettre ailleurs. J'ai démontré à l'audience qu'il y avait d'autres endroits pour pouvoir l'Ept passer à d'autres endroits, et qu'il a dû faire un détour pour aller mettre ce sac à main à cet endroit-là. Donc, on se rend bien compte qu'en réalité, c'est un plan totalement machiavélique. On est dans une haine entretenue, dans un deuil pathologique qui donne lieu à cette idée de vengeance sans limite. Et d'ailleurs, moi, vous savez, il y a autre chose qui m'a fait mal au cœur, mais mal au cœur à cette audience. C'est que Rodolphe, il avait un petit frère. Et que ce petit frère, il était à cette audience, son papa dans le box, sa maman libre, mais qui comparaissait également, et que personne s'occupait de lui. Et ce petit frère, le midi, c'était avec les parties civiles qui déjeunaient. Parce que même lui était abandonné par ses parents au profit de leur idée uniquement, ils étaient obnubilés parlant le fils qu'ils avaient perdu, ce que je peux comprendre, mais on était dans une logique de destruction massive.
Alors il y a un point qui m'intrigue beaucoup, moi, dans cet accident de voiture qui est donc le déclencheur de tout. Il y a cette histoire de ceinture de sécurité. La démonstration est intéressante, il dit la marque de la ceinture est sur le côté droit de l'épaule, et donc il était passager, et donc il n'était pas conducteur. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit... C'était Alan qui conduisait la voiture?
Mais j'en sais rien de ce qu'il dit. Il est dans des élucubrations. Ils sont dans des élucubrations totales qui sont aux opposés de tout ce qui a été découvert. Après même les histoires de ceinture de sécurité. Enfin, on voit qu'ils sont, ils se montent la tête. Voilà, ils se montent la tête. Il y a des témoins qui voient Rodolphe monter dans cette voiture bourrée, qui voient Rodolphe conduire à toute vitesse. Plusieurs personnes disent, on savait qu'il allait au drame parce que il n'était pas en état de conduire et il conduisait comme un fou. Donc, moi, j'ai du mal avec ce que vous dites, Christophe, quand vous dites cet accident de voiture qui est à l'origine de tout. Enfin, oui, qui est à l'origine du délire
de
destructeur
folie
de ses parents. Mais sinon, je veux dire, cet accident de voiture, il devrait être à l'origine de rien du tout. C'est un drame, c'est un accident de la circulation lié à un état alcoolique qui n'aurait jamais dû donner ensuite, avoir pour conséquence qu'on tue une très jeune femme sous les yeux de son bébé.
Ce que je veux dire, Cathy Richard, c'est que, et je comprends que vous ne pouvez pas prendre cette posture, mais moi qui suis très extérieur à cette histoire. Je suis évidemment effaré par ce qui est arrivé à Maëva, mais aussi un peu touché par ce qui est arrivé à ces gens-là, qui sont devenus fous, qui se sont engrainés eux-mêmes dans la folie, au point de vouloir la mort de Maëva. Ils sont malgré tout un peu touchants, même vous, ils vous touchent un peu ou pas du tout?
Moi, je suis touchée par des parents qui ont perdu leur enfant. J'ai du mal à être touchée par la haine aveugle. Vous voyez, Alan me touche. Alan me touche parce que Alan, il a une grandeur d'âme. Eux, ils sont uniquement dans la destruction sans jamais entendre rien ni personne. C'est-à-dire que ils ne veulent pas entendre les explications des gendarmes. Ils ne veulent pas lire ce qu'il y a dans la procédure. Quand ils agressent Alan et Maëva, ils sont dans une agression sans explication. C'est-à-dire que c'est pas, il y a rien qui puisse dire, ah bah oui, effectivement, Alan était au volant, ou ils ont tué leur fils. Enfin, rien. Rien. D'ailleurs, même eux, c'est pas forcément ce qu'ils verbalisent. En fait, ils verbalisent une espèce de magma à moitié paranoïaque en disant tout cela est trop louche. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les parties civiles. C'est-à-dire que quand quelque chose est inadmissible pour le cerveau, c'est-à-dire que on peut pas admettre. Souvent, on a ça aussi dans les suicides. On peut pas admettre. D'où la fameuse théorie du complot. C'est-à-dire que on peut pas admettre que quelqu'un qu'on aime meurt bêtement. Et encore moins à cause de lui. Vous voyez ce que je veux dire?
Je comprends.
Donc on échafaude. Et parfois, on a des parties civiles qui échafaudent des choses beaucoup plus compliquées. Mais oui, mais il l'a tué d'un coup de couteau. Mais en plus, il y avait ci, il y avait ça. Ben non, c'était juste une bagarre qui avait mal tourné. Oui, mais on imagine que, etc. Eux, ils étaient là-dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté la mort de leur fils. Et ils n'ont même, et ce qui était encore plus difficile d'accepter, que leur fils était à l'origine de sa propre mort. Il leur fallait trouver quelqu'un responsable. Et ils ont trouvé Maëva qui était à des années-lumière de tout ça.
De cette histoire. Une dernière chose, Cathy Richard. Enda Barhuet est condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Autrement dit, à rien. Elle n'a donc pas du tout participé au projet criminel.
En tout cas, on n'avait pas d'éléments pour le penser. Et puis je pense que le fait que... je vous dis, Rodolphe avait un petit frère, que ce petit frère était à l'audience, que son papa allait être condamné lourdement à 20 ans de réclusion criminelle. Je pense que ça a aussi encouragé les jurés à décider qu'au moins un des deux parents devait rester dehors pour que au drame, à quel s'était déjà ajouté le drame, se rajoute pas encore un autre drame. Voilà. Et il fallait que le petit frère de Rodolphe garde sa maman.
On se dit que le juge d'instruction aurait peut-être été bien inspiré de ne pas la renvoyer devant la cour d'assises, pour le coup.
Je pense que c'était bien qu'elle soit renvoyée devant la cour d'assises. Non, je pense que ça aurait été anormal qu'elle ne soit pas. D'ailleurs, elle a été déclarée coupable. La peine n'efface pas la peine, la sanction n'efface pas la souffrance, en ce sens que, effectivement, peu importe à combien elle est condamnée. En revanche, ce qui est important, c'est la déclaration de culpabilité.
Merci infiniment, Cathy Richard, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour débriefer cette affaire qui remonte à avril 2012.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.